sécurité, un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, celle qui tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous moquez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les humanités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les fêtes, l'envie, l'ivrognerie, les effets de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et ne cherchons pas une belle gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Amen. Nous prions le Seigneur une fois de plus. Notre Dieu, Seigneur, sauve-nous aujourd'hui, comme nous te supplions, nous, ton peuple, de venir nous sauver. Seigneur, sauve-nous de l'indifférence, sauve-nous du manque de diligence, sauve-nous du manque de fidélité, de douceur, Seigneur, et de maîtrise de nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à voir clairement ce que tu nous commandes dans ta parole, et non simplement aide-nous à le voir, mais aide-nous à le désirer. Seigneur, que ton peuple puisse désirer être transformé pour ta gloire. Nous te supplions ces choses au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Amen. Donc, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, nous avons traité de la sanctification. Ce passage, où Paul met en contraste les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, c'est un passage qui nous enseigne la sanctification. D'accord? À quoi le Seigneur nous a appelé? Pourquoi faire Dieu nous a sauvés? Eh bien, il nous a sauvés, non pas pour nous jeter dans vos péchés et juste avoir un ticket pour le ciel, mais le salut consiste que Dieu va prendre un pécheur complètement inondé dans la pollution du péché et ayant un caractère abominable, et il va le transformer progressivement par la puissance de son esprit, par la vérité de l'évangile, à la même image de son fils. Cette image, nous avons dit que la sanctification, donc cette image, c'est la transformation de notre caractère. C'est notre caractère qui est en train de changer. Ok. Mais une des choses que nous avons vues, qui est très importante, que j'ai tenu à bien insister sur cette vérité dans ce passage, c'est que c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons dit que tout seul, on ne pouvait pas être transformé. La religion en fait, c'est et tu vivras. Dieu te dit non, tu ne peux rien faire, je vais le faire moi. C'est moi qui dois te sauver. Par contre, il faut faire attention avec cette vérité, quand on parle de la sanctification, parce qu'on peut très vite tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait tout, et moi je ne dois rien faire de la sanctification, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lors de l'histoire de l'Église, nous avons vu, dans l'histoire de l'Église, des hommes qui ont prêché cette fausse doctrine. Parce qu'ils ont voulu éviter à tout prix que le salut c'est par les œuvres, ils sont tombés de l'autre côté, dans l'extrême, en disant, il ne faut rien faire du tout, c'est Dieu qui fait tout, et je peux me reposer. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Cette fausse doctrine, ou cette manière d'enseigner l'évangile, s'appelle le piétisme. Vous l'entendez dans le mot, le piétisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait piètre. Je ne fais rien. Dieu fait tout. L'homme, l'un des hommes qui a prêché cette fausse doctrine et qui a été reconnu par l'Église comme un hérétique, c'est Miguel Molina. Il est né en 1628, il est mort en 1696. Cet homme était un des pères du piétisme. Le piétisme des pères, c'est une fausse doctrine. Dans la sanctification, on ne doit pas juste croire ce que Dieu a dit à sa parole et c'est tout et rien faire.
Il faut croire et agir. Les deux choses sont très importantes dans la sanctification. Croire et agir. De manière que la croissance dans la sanctification, et ça c'est très important que tu puisses comprendre, n'est pas quelque chose de facile. Être transformé à l'image de Christ n'est pas quelque chose de facile. Et si tu es un vrai chrétien, tu fais de quoi je suis en train de parler parce que tu ne seras jamais sanctifié de ton amendement dans la forme. Qui c'est qui est sanctifié aujourd'hui? De comment il reprendra-t-il? Je vais la même, qui est sanctifié? Non. Il n'y en a aucun. Tous nous nous lamentons. Tous nous sommes déçus. Tous ne sont pas contents de comment notre vie de sanctification avance. Parce que la sanctification est quelque chose de difficile. Et nous allons voir aujourd'hui que la sanctification demande de beaucoup d'efforts. Et j'irai même plus loin que simplement des efforts. La sanctification demande du sacrifice. Du sacrifice, c'est-à-dire mourir. Mourir à soi-même. C'est ça la sanctification. Ok. Quels sont les trois ennemis qui s'opposent tout le temps, 24-24, jusqu'à ce que tu parviennes au ciel à ta sanctification? La Bible dit que c'est le monde, la chair et le sang. Nous avons trois ennemis impitoyables qui s'opposent de toute leur force à que tu puisses être transformé à l'image de Jésus. Le monde, la chair et le diable. Écoutez comment l'apôtre Jean vous signalera les deux premiers. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 et 16. Il parle au chrétien, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Veux-tu être transformé à l'image de Jésus? Vraiment? Réussis? Tu veux vraiment bien que une personne, un chrétien, qui gravise à ta vie de sanctification? N'aime pas le monde. Si tu aimes le monde et les choses qu'il y a dans le monde, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, ce qui plaît à tes yeux, si ton amour est pour ça, ton cœur pense pour ça, eh bien, tu es en train d'être soumis à cette première énergie qui est le monde. Il s'oppose à que tu puisses grandir. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 et 9, Pierre dira, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez, le diable a été vaincu, mais cela ne veut pas dire que maintenant, c'est Dieu qui t'écoute, ne peut rien faire. Non, veillez. Veillez. Votre adversaire, celui qui s'oppose à vous, est comme un lion rugissant, cherchant à dévorer les personnes, à dévorer ceux qui ne veillent pas. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, le piétisme, c'est une force de crise. Si tu juges que tu te reposes, et tu dis non, c'est Dieu qui va tout faire, mais pas, c'est pas la peine que je veille, c'est pas la peine que je m'abstienne de des choses du monde, que je lutte contre les désirs qu'il y a dans mon cœur, eh bien, tu vas être jamais une personne qui va demander ma sanctification. Voilà pourquoi tu es toujours au même état. C'est cette raison pour laquelle tu es toujours. Tu manques de sanctification dans ta vie, de progrès spirituel. Quel est l'enseignement de la Bible au sujet de notre participation à la sanctification? Très important, les frères. Même très mystérieux, je dirais. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir de le faire. C'est lui qui le fait, souverainement. C'est l'Esprit. On a dit tout ça dans ces trois communications qu'on est incapable et que c'est l'Esprit qui produit ça en nous. Mais de manière très mystérieuse, la Bible nous dit que même si c'est l'Esprit qui fait ça, et nous on en est incapable, nous devons travailler. Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux choses dans notre petite tête? Je ne pense pas. Mais maintenant, est-ce qu'on doit croire ce que la Bible dit et simplement lui obéir? Oui.
Amen.
Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, c'est l'apôtre Paul lui-même qui est en train de parler, qui est en train de nous enseigner le combat pour la sanctification. au Corinthien, il va leur dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le sable courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Il prend ici l'image de la glaire. Imaginez les jeux de lundi. J'aime beaucoup les jeux de lundi quand ils sont à. Quand c'est le moment de jouer de lundi. Et une des choses que j'aime bien regarder, c'est la course. C'est la course, c'est le 100 mètres, par exemple. Comment est-ce que les coureurs de 100 mètres courent? Est-ce qu'il y en a un d'eux que vous voyez un peu en disant, il va courir en disant, bon, je vais courir, mais j'ai envie de perdre. Est-ce que vous les voyez là-bas? Comment ils courent? Ils sont tous boostés. Même celui qui est le moins, celui qu'on dit pour la ligne, c'est pas possible qu'il va gagner, on le fait, parce qu'on sait déjà les favoris. Mais même celui qui sait qu'il va avoir du mal, il veut gagner. Parce que ça fait partie de la compétition, ça fait partie de la matière même de courir une course. Et Paul prend cet exemple pour dire comment est-ce que nous devons courir la vie chrétienne, la course de la vie chrétienne, avec une envie de gagner. Non pas en disant, moi je suis un petit chrétien, je veux me contenter de peu. Non, tu dois avoir l'envie de gagner. Et écoutez, qu'est-ce que tu as envie, si tu as besoin et envie de gagner, qu'est-ce que tu as envie? Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent tous les faits d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Si c'est vrai que nous devons courir comme des athlètes qui désirent de tout leur faire gagner la course, alors gagner la course va impliquer t'imposer des choses auxquelles tu vas t'abstenir, des choses desquelles tu vas t'abstenir. Un athlète ne mange pas n'importement, ne dort pas n'importement, fait de l'exercice quotidiennement, s'entraîne quotidiennement. Vous savez que la vie de l'athlète n'est pas si facile que ça. Eh bien, Paul est en train de vous enseigner, dit qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est une vie d'abstinence. C'est une vie de relentement pour gagner la course. Et cela, il va mettre son propre exemple, la porte de Paul, et écoutez combien cette vérité est importante. J'espère qu'aujourd'hui le Seigneur va travailler pour que vivre avec ça. Paul lui-même, je vois au verset 26, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je prends non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir fait que l'autre. Paul ici nous dit dans 1 Corinthiens 9 que cette vérité est tellement importante pour les autres qu'il met son propre exemple en disant écoutez, moi je suis de la porte et je vais vous montrer comment moi je vis cette vérité. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir et c'est celui qui a apporté les autres parfois. Comment est-ce que la vie nous définit ici la vie de sanctification? Une vie où nous devons participer. N'est-ce pas? C'est pas Dieu qui est tout. Je traite durement mon corps. Philippiens 2, verset 12 et 13. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à votre salut, oh, c'est pas évangélique ça. C'est le salut par les œuvres, ça, non, c'est la vie de Jésus. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que cela veut dire travailler à mon salut? Eh bien, c'est marquer la vision du monde. Je vais jouer le monde. Si quelqu'un aime le monde, ça va nous aider tout à l'heure, l'amour du Père est mon ennemi. Fais mourir les œuvres de la chair. Mais vous avez dit, vous nous dites, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire dans la vie. C'est nous qui devons le faire, c'est nous qui devons vivre une vie comme un athlète, tout en étant conscient que Dieu nous donnera la force pour accomplir ce que nous devons pas faire. À notre monde, c'est agir en dépendance. C'est faire en croyant toutes les promesses de Dieu, qu'il est notre sauveur et qu'il va nous donner pour nous aider. Comment est-ce que nous, on ne peut pas faire entendre cette vérité? Le texte que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Verset 24, il dit, et ceux qui sont avec Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment l'esprit de Dieu en eux, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ceux qui sont à Jésus-Christ, comment est-ce qu'on les reconnaît? Parce qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions. Ne me dis pas ici, moi je connais bien l'évangile, je suis né dans une famille chrétienne, je viens à l'église, je les porte pour être quelqu'un qui. Non, non, non. Ce qui nous montre ici dans notre passage, qui sont les vrais chrétiens, ce sont ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions. Pas ceux qui connaissent bien, pas ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, pas ceux qui se disent même chrétiens. Ceux qui, vous savez comment on peut connaître qui sont les vrais chrétiens? Ce sont ceux qui, quand ils sont tout seuls, vivent dans une chrétienne. Si tu es quand tu es tout seul, pas quand tu es ici, quand tu es tout seul, si tu es. Quand personne te voit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est quand personne te voit que tu es vraiment ce que tu es. C'est là qu'on voit. Si ta vie, quand tu es tout seul, est une vie de combat contre le péché, bien c'est parce que tu es un péché. Si quand tu es tout seul, tu laisses ton péché dominer, ouais, de façon de voir ici, je ne suis pas dans l'église, mais ici, tu es le meilleur chrétien possible, pose-toi une question. Non, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ça va? Donc, quelle est la vérité que nous avons vue? Même si c'est l'Esprit de Dieu qui doit produire ça en nous, qui est le fruit de l'Esprit, mais cela ne veut pas dire que nous sommes partis. Au contraire, nous sommes très actifs dans notre sanctification. Nous devons combattre pour notre sanctification et la désirer et faire tout le possible pour grandir dans cela. Amen. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour voir si vous êtes bons élèves. Quels sont les caractéristiques du fruit de l'esprit que nous avons appris? Est-ce que quelqu'un d'un d'entre vous le rappelle? Vous voyez, quelle est la première? Quel est le premier aspect de ce fruit? L'amour. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'amour que nous avons vu? C'est un amour comment? Agape. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui ne considère pas ses propres intérêts, mais qui plutôt cherche l'intérêt des autres. Même si cela indique son propre sacrifice. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Quel est l'autre aspect que nous avons vu? L'amour? La joie. C'est bien. Qu'est-ce que nous avons dit au sujet de la joie? C'est un commandement. Mais c'est ça pour que vraiment ce qu'on a vu puisse se graver. C'est un commandement. Tu as l'ordre exprès de Dieu d'être heureux. Tu ne peux pas te conformer à un manque de joie et à quelqu'un qui tout le temps ruine dans ton cœur et tout le temps désespéré. Non. Tu dois être dans la joie. L'autre, c'est la paix. La paix qui nous vient de Dieu, une paix qui ne dépend pas de choses qui m'entourent, mais plutôt une paix qui dépend de ce qui est à l'intérieur de moi. Une paix que Dieu m'a donnée, c'est la paix avec Dieu, c'est la paix de la justification. La patience, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, c'est longanimité. Une âme qui est longue à se mettre en colère et qui résiste et veut pardonner et veut faire des efforts, même si cela, des fois, dans la longanimité, quand on dit l'âme à la colère est patiente, cela ne veut pas dire justifier le péché de l'homme. Non, quelqu'un qui est longanime ne justifie pas le péché. Il le condamne le péché, mais une âme longanime et une âme qui est là, ça se met en colère. Qui laisse de la force pour pouvoir se rebâtir. D'accord? La bonté, nous avons dit que c'est une bonne disposition, c'est un cœur qui pense bien, l'homme bon tire de bonnes choses, de son bon trésor. La bienveillance, nous avons dit que c'est la bonté mise en pratique. C'est-à-dire, non seulement je pense bien de l'autre, mais j'agis pour son bien. Je suis bienveillant avec lui. Ok, aujourd'hui nous verrons la foi, la douceur et la maîtrise de soi. D'accord? Ok, la foi. Le fruit de l'esprit, c'est la foi. Même si la parole foi ici dans notre passage est une bonne traduction du grec, une très bonne traduction du grec, parce que dans notre passage, le même mot grec qui est traduit ici par croix, c'est exactement ce mot. D'accord? Tous les commentateurs, cependant, sont d'accord pour dire que Paul n'est pas en train de parler ici, quand il dit le fruit de l'esprit, c'est la foi. Il ne parle pas de notre confiance en Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas par exemple quand il dit dans Romains 5, et quand donc justifié par la foi, nous avons affaire avec Dieu. De quoi il parle dans le texte de notre foi déposée dans l'évangile. Ce n'est pas de ça que Paul est en train de parler. Ici, une meilleure traduction de la parole foi, ou de cette caractéristique de l'Esprit, serait la fidélité. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Ok. Qu'est-ce que c'est la fidélité? On pourrait dire aussi la loyauté. Fidélité, loyauté sont des choses, des concepts très proches. Le fruit de l'esprit, c'est d'être une personne fidèle, une personne loyale. Et vraiment, j'en parlais avec des frères tout à l'heure, j'ai découvert quelque chose que je désire de tout mon âme. Pendant que j'ai médité au sujet de la fidélité, vraiment j'ai prié au Seigneur, je veux être un homme plus fidèle. Qu'est-ce que c'est beau la fidélité, c'est faire. Qu'est-ce que c'est beau, un homme, une femme loyale. C'est une des choses qu'on apprécie le plus chez les hommes. Vraiment. Quand nous trouvons une personne loyale, même si cette image, quelquefois, même dans les hommes païens, on peut retrouver des hommes qui ont cette capacité, même si elle n'est pas produite par l'esprit, mais c'est une des vertus que Dieu a donné dans l'homme. Mais quand on trouve un homme et une femme loyale, fidèle, on est, cela nous touche à l'admiration. C'est magnifique. La loyauté. Dans la Bible, dans la version Semeur, Semeur traduit ici le verset en disant, mais le prix de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La fidélité, la bonté, la fidélité. Vous voyez, ce verbe traduit le mot foi ici par fidélité. Frères et sœurs, s'il y a donc une vertu désirable que nous devrions tous posséder, ou désirer posséder, à un plus haut degré, ça c'est la fidélité. Vraiment, être fidèle, et ici c'est une des choses que je veux vous enseigner aujourd'hui au sujet de ça, être fidèle, ce n'est pas quelque chose de qui va simplement toucher quelques aspects de notre vie et qu'on ne va pas retrouver. En réalité, quand nous voyons et nous étudions la fidélité, nous allons voir comment la fidélité en réalité touche presque toute la nature humaine. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, a besoin de fidélité. Être un homme ou une femme fidèle va transformer la vie. Dans chaque domaine, donc, nous avons besoin d'être fidèles. Maintenant, qu'est-ce que c'est la fidélité? Qu'est-ce que c'est la fidélité? C'est ce qui nous intéresse, c'est ce que je veux vous enseigner. Eh bien, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lever nos yeux, ne pas regarder en premier lieu nos semblables, mais lever nos yeux et regarder notre Dieu. Si nous voulons savoir qu'est-ce que la véritable fidélité, eh bien, la véritable fidélité nous vient de Dieu. C'est lui le Dieu fidèle. Et c'est en admirant lui qu'on va pouvoir découvrir ce que c'est et vouloir ressembler à ce Dieu. Ok. Regardez comment le Seigneur parle de lui-même, et souvent le Seigneur parle de lui-même comme le Dieu fidèle, Deutéronome 7, verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Dieu se révèle à son peuple une des fois, des choses qui révèlent le plus à son peuple, c'est à quel point il est un Dieu fidèle. Et je parlais avec ma femme aujourd'hui, en venant par ici, et nous étions en train de repasser tous les passages en réalité où la Bible parle de son salut, ou de l'accomplissement du salut de Dieu, et à chaque fois, nous voyons que Dieu accomplit son salut en raison de sa fidélité à son alliance. Pourquoi nous sommes sauvés les frères? Parce que Dieu est fidèle. Parce que c'est un Dieu qui garde sa parole. Il a promis quelque chose, il va accomplir tout pour nous. Sa fidélité est quelque chose d'extraordinaire, elle nous apporte un extraordinaire réconfort et sécurité. Dans Lamentations, Jérémie, dans Lamentations, chapitre 3, verset 22, écoutez ce que Jérémie dira au sujet de la fidélité de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Maintenant, pourquoi les bontés de l'Éternel et les compassions ne sont pas épuisées et n'arrivent pas à leur terme? Elles se renouvellent chaque matin. C'est extraordinaire, tant mieux. Je vais te donner un exemple de qu'est-ce qu'il est en train de dire que j'ai fait. Imagine que hier tu as péché, hier soir, avant de te coucher, tu as péché. Eh bien, tu as demandé pardon au Seigneur, mais quand l'aurore s'est levée, et l'image que j'ai dit quand je viens de vous donner, dit quand l'aurore s'est levée, la miséricorde de la patience de toi était intacte, comme si tu n'aurais pas péché. Comme si tu n'avais rien pris de cette miséricorde et de cette compassion parce qu'elle se renouvelle chaque matin, jusque dans l'éternité. C'est la réponse que nous devrions nous poser, que Jérémie nous enseigne ici, c'est pourquoi? Comment est-ce possible que Dieu soit tellement bon, tellement miséricordieux, tellement patient avec son peuple? Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie nous dit que cette compassion inépuisable, cette miséricorde et cette patience, elle est en Dieu, parce que sa fidélité à lui-même est grande. Dieu fait ça parce qu'il veut honorer son propre nom. Je vous sauve, ô peuple, non pas à cause de vous, mais à cause de moi. Parce que je suis fidèle à moi-même. Marie, la Vierge qui entendra notre bêtise, quand l'ange va venir la visiter, et il va lui dire, tu l'enfanteras un fils. Et ça sera lui le sauveur, le Messie promis. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Elle va louer Dieu pourquoi? À cause de sa fidélité à l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. 1 verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Vous voyez, Marie connaît cette bonne nouvelle que le Messie promis est là avec la fidélité de Dieu à sa promesse à ses pères. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de vivre? L'accomplissement de la parole de Dieu. Il a promis et il a accompli. Donc celle-ci est l'image de la fidélité inébranlable de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle qui accomplit toujours et qui garde sa parole. C'est un Dieu d'honneur. Christ est un Seigneur romain. Cette même fidélité de Dieu que nous pouvons dans l'Ancien Testament se retrouve parfaitement en Christ. Parce qu'il est le Dieu, il est le Seigneur. Apocalypse 19, 20, vous savez ce que Jean dira au sujet de Jésus. Puis je vis le ciel ouvert et voici parmi un cheval blanc. Et il dit, parle de notre Seigneur. Celui qui de volonté s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Notre Seigneur Jésus-Christ est appelé, c'est son nom, c'est sa nature, il est fidèle et véritable. Ok. Maintenant, si nous réfléchissons bien à ce sujet de la fidélité, nous comprenons que la fidélité est écoutée, dit, je veux bien dire que vous soyez attentif, qu'est-ce que c'est l'opposé à la fidélité? La fidélité. Oui. L'infidélité, ça voudrait dire ne pas garder sa parole, ne pas être un homme et une femme honorable. Mais une des choses que le Seigneur m'a amené à voir comme ramification au sujet de la fidélité, de son opposé, c'est que ne pas être quelqu'un de fidèle, c'est vrai, uniquement, c'est aussi être quelqu'un de lâche. Et vous allez voir comment la Bible parle de cela. Donc, quand nous réfléchissons, nous comprenons que c'est le contraire de la lâcheté. La fidélité est le contraire de la lâcheté. Et c'est pour cette raison que cette vertu est si extraordinaire. Et que nous l'apprécions tellement dans les hommes. Quand nous voyons quelqu'un de fidèle, nous ne sommes pas simplement en train de voir quelqu'un qui garde toujours sa parole et qui est honorable, mais nous voyons quelqu'un aussi de courageux. Parce que accomplir sa parole et faire ce que nous devons faire, qu'est-ce que ça demande? Du courage. Ça demande du courage, beaucoup de courage. Des fois, du courage en ce qui concerne le renoncement à moi-même. Et c'est de ça que je veux vous parler particulièrement. Être fidèle, donc, ce n'est pas être lâche. Ce n'est pas être lâche. Et Dieu, dans sa parole, condamne la lâcheté et le manque de fidélité comme un grave péché. Apocalypse 21, verset 8 et 7 et 8. Regarde ce que Dieu dira. À celui qui vaincra, héritera de mes choses. Je serai ton Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs qui est une sorte de lâcher. Mentir, c'est pas être fidèle, c'est ce qu'a dit de la vie, mais c'est une forme de lâcher. Leur part sera dans les temps de feu, ardent et de souffre, c'est-à-dire la seconde mort. Dieu condamne la lâcheté. Parce qu'elle est le contraire de ce qu'il est. Il est un Dieu fidèle, un Dieu fort et honorable, et ceux qui le sont, qui sont lâches, eh bien, seront condamnés. La lâcheté aussi peut être vue chez les hommes comme de la duplicité. La Bible parle de ça comme, vous savez, quand un homme est double, ça fait partie aussi de l'infidélité. Celui qui est infidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il a un visage devant quelqu'un, mais quand cette personne est tournée, il est infidèle parce qu'il a un autre visage. C'est de l'infidélité. Eh bien, la Bible condamne cela comme étant un grave péché aussi. La duplicité. Écoutez ce que Proverbe 6, 12 à 19 dira. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la vie. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des colères. Aussi, la ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé d'un coup et sans remède. Écoutez maintenant. Il y a six choses que hait l'Éternel. Quelles sont les choses que Dieu n'aime pas? Il les hait. Et même celle qu'il a en horreur, les biotins, la lave menteuse, les mains qui ravagent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des colères en secret. Le faux témoin, la duplicité, quelqu'un qui est en train de diviser les autres, mais qui donne un visage et ensuite, dès que la personne les connaît, ils ont un autre champ de cloche, et bien ça c'est quelque chose que Dieu a en abomination. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un manque de fidélité. Parce que celui qui est fidèle, c'est faire vivre la vérité du temps. Celui qui déborde pour être fidèle, peu importe ce que je vais subir, je vais dire la vérité. Être fidèle, c'est garder sa promesse et être une personne loyale. C'est avoir de la bravoure et de l'amour pour la vérité. C'est ça, être fidèle. Vraiment, le frère, c'est pas quelque chose de louable, ça. Pour moi, véritablement, s'il y a un aspect chez un homme qui attire tout mon amour et ma reconnaissance, c'est un homme qui loyal. C'est que un homme, on ne peut plus faire confiance, et qu'il ait une seule parole. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Jacques 3, verset 17, Jacques dira, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse d'en haut est exempte, c'est-à-dire sans duplicité et hypocrisie. C'est une sagesse qui vient de Dieu. Dieu approuve celui dans lequel il ne voit pas un double jeu. Il aime les hommes comparables. Il ne veut pas pour ça. Ok, maintenant, Savez-vous pourquoi on a tellement de mal à croire Dieu et ses promesses? À votre avis, à la lumière de ce que nous venons de dire, pourquoi on a tellement de mal à croire ce que Dieu nous dit dans sa parole, à son sujet et à notre sujet? Eh bien, c'est parce que nous manquons, nous, tellement de fidélité, et nous connaissons si bien la nature humaine et sensible, et on sait que les hommes autour de nous, en nous découvrant nous-mêmes, on est capable de beaucoup de fidélité, qu'on doute. On a du mal à croire qu'il existe une seule personne dans cet univers qui passe tout d'autre qui dit. Si on serait plus fidèle, nous, et c'est pourquoi que tu dois désirer la fidélité, parce que la fidélité va t'aider à mieux croire en Dieu. Plus tu vas être une personne fidèle, plus tu vas faire confiance à une personne fidèle. Moins tu es fidèle, plus tu vas avoir de mal à croire la fidélité de Dieu. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, que nous avons du mal à croire quand le Seigneur nous dit, je ne crains pas. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et aucune de ses brebis ne va se perdre. Vous voyez, c'est une promesse de Jésus, il dit. Jésus dit, je suis le bon berger et je vais garder le brebis. Et toi, tu diras, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vraiment il va conduire sa promesse? Il va nous garder jusqu'à la fin? Tu sais pourquoi? Parce que tu doutes, parce que toi, tu es fidèle. Je dis non. Lui, nous avons dit, il est le Dieu fidèle qui accomplit toujours ce qu'il promet.
Amen.
Philippiens 2, verset 41, ne faites rien par l'esprit de partie ou par vaine gloire. Vous savez ce que Jésus, l'exemple que Jésus dit. Mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il y a en vous les sentiments qui éclairent Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même devant la mort jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout Jésus fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Comment est-ce que vous voyez ici la fidélité de Christ? Eh bien, c'est parce que nous avons dit tout à l'heure que être fidèle implique parfois du renoncement à soi-même. Et le texte de Paul ici nous dit que Jésus n'a pas renoncé comme une croix à arracher être l'égal de Dieu, mais parce qu'il a promis qu'il allait venir nous sauver, il s'est défait de cette gloire. C'est extraordinaire, mon frère. Écoutez la fidélité de Christ. Il est Dieu d'éternité à éternité, le ciel adoré. Mais au moment où, quand les temps se sont accomplis, il a pris forme humaine. Et prendre forme humaine pour accomplir sa promesse a indiqué qu'il renonce à lui, qu'il renonce à sa gloire, qu'il prenne la forme d'un serviteur et qu'il aille mourir sur le croix. Mais il l'a fait parce qu'il est fidèle.
Amen.
Parce qu'il est fidèle. Parce que c'est un Dieu de parole. Si nous serions donc plus fidèles, nous aurions plus de facilité à croire ce que Dieu dit. Et nous avons tellement de preuves pour le croire. Tellement de preuves pour lesquelles nous devrions le croire. Maintenant, une application à cette première vertu que nous avons vue aujourd'hui, en vertu de devenir être fidèle, à l'exemple de notre Dieu. En vertu. Et donc, premièrement, envers notre Seigneur, n'est-ce pas? La fidélité à qui nous devons premièrement toute fidélité et dévotion, c'est à lui. Celui qui nous a aidés, il a donné sa vie pour nous. Chaque acte de rébellion, écoutez bien, chaque acte de rébellion ou de péché envers Dieu est vu comme de l'infidélité. Si vous êtes une personne qui a lu l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui a dû vous marquer. C'est que quand Dieu parle à son peuple et lui reproche ses péchés, souvent, il le fait comme si un homme marié parlerait à une femme infidèle. Pourquoi il dit ça? Quand Israël allait vers l'autre Dieu, et adorer d'autres dieux, Dieu se révélait à eux en leur disant qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes une femme infidèle. Vous avez commis un adultère avec d'autres dieux. Pourquoi? Parce que le péché de faire, ce n'est rien de plus que de l'infidélité. Chaque fois que nous commettons un péché, et j'espère que ça va t'aider à craindre ton péché, tu es infidèle à Dieu. Ce Dieu qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi, c'est comme si tu le tromperais. Voici comment Dieu vit ton péché. Cela ne te dégoûte pas du péché, n'est-ce pas? Donc nous devons être fidèles à notre roi et avoir, et n'avoir, pardon, aucune amitié avec ses ennemis. Si une femme veut être fidèle à son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas simplement aller avec d'autres hommes, mais aussi elle va défendre l'honneur de son mari. Elle va défendre la personne de son mari, sa réputation. C'est de cette manière que nous devons agir envers Dieu. Non simplement nous devons nous éloigner du péché, mais nous devons aimer ce que Dieu aime et aller ce que Dieu aime. En défendant son honneur et sa gloire. Et comment est-ce que nous pouvons faire ça? Eh bien, en proclamant sa vérité. Même quand le monde se voit dans nous, même quand le monde dira le christianisme c'est une folie, eh bien, si nous voulons être fidèles, c'est proclamer la vérité de Dieu. Dans tous les dangers. Donc nous devons être premièrement fidèles à notre Dieu, même quand la société ne veut pas. Aujourd'hui nous vivons dans une société antichrétienne. Quel est notre devoir? Si Dieu comprend ce que cette société aime, eh bien nous devons être fidèles à Dieu qui nous faisons. Et de Dieu la réalité, même si cela va indiquer qu'on va appuyer. Mais nous voyons que la fidélité, la vraie fidélité, implique le renoncement et mourir en soi-même. Donc, fidélité, premièrement envers Dieu. Deuxièmement, la fidélité envers notre prochain. Nous devons être fidèles à nos semblables. Et être fidèle, c'est avoir de l'honneur. Et faire tout notre possible pour être reconnu comme une personne fiable et digne de confiance. Qu'est-ce que c'est être une personne fidèle? Il faut que tu donnes cette image aux autres. C'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un à qui je peux mettre ma confiance. S'il me donne sa parole, s'il promet de faire quelque chose, s'il s'engage pour quelque chose, je suis sûr qu'il va accomplir ça. Les personnes qui ont cette faille de caractère et les frères de courature, à un certain degré, peut-être les uns plus, les autres moins, mais ne croyez pas que vous êtes aptes, que vous n'avez pas de problème dans votre vie. Nous sommes pécheurs. Et le péché nous a rendu fidèles. Nous devons rentrer dans cette fidélité. Dans une certaine mesure, nous sommes tous fidèles. Nous manquons tous un peu à notre parole. Et je sais que c'est gitan, c'est dur ça. Mais des fois, il faut reconnaître que nous avons besoin d'être, de faire plus d'efforts pour être plus fidèles. Donc être fidèle à notre prochain, c'est respecter nos engagements. Quel engagement? Premièrement, avec notre famille, notre mariage. Vous savez que le mariage, ce n'est pas une envie. Je ne dois pas respecter mes engagements avec ma femme quand je le ressens. C'est pour ça que le Seigneur est tellement intelligent. Il sait que si le mariage aurait été dépendé simplement de mon état d'âme, eh bien je serais tout le temps infidèle. Mais Dieu a donné le mariage comme une alliance. Vous avez un moment avec les téléphones, hein? Chaque fois ils sont tous les 5 minutes. Dieu a donné le mariage comme une alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance, c'est une promesse. D'accord? Et une promesse, je ne dois pas l'observer quand je le ressens dans mon cœur. Je ne dois pas pardonner ma femme ou mon mari quand je le ressens dans mon cœur. Je ne dois pas aimer mes enfants quand j'ai de l'amour pour eux. J'ai l'obligation. Parce que je suis un vivant. Et être fidèle, c'est respecter ses engagements. Et cela équivaut avec toutes nos relations humaines, que nous avons avec tout un chacun. Dernièrement, dernière application, nous devons être fidèles envers l'Église. Être fidèle envers Dieu, être fidèle envers notre prochain, être fidèle envers l'Église. Et qu'est-ce que cela dit d'être fidèle envers l'Église? Eh bien, c'est aussi être une personne en qui on peut faire confiance. Une personne à qui on peut se faire abonner, il va faire ce qu'il a dit. C'est respecter ses engagements, les frères. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit, des fois, l'infidélité prend la forme de la plainte. Je vais vous donner un exemple. Je dois aller visiter un frère. Ça, c'est mon engagement. En tant que pasteur, je dois le faire. Un frère est dans le besoin. Et je dois aller le visiter. Imaginez. Mais comment est-ce que moi je dis l'infidélité? Je ne la dis pas comme ça. Ah, vous êtes fidèle, je vais visiter. Je vais pas visiter le voir. C'est pas comme ça qu'on le dit. On le dit comme un manque d'envie. Quand le moment vient d'aller voir mon frère et faire mon devoir, eh bien, il est possible qu'à ce moment-là, tu es en train de faire autre chose. Ou que je me rappelle que je dois aller nettoyer mon garage. Et là, il y a une flemme qui vient. Sauf qu'il y a un manque de force sexuelle pour aller faire ce que je dois faire. Mais vous savez pas, comment on appelle ça? On appelle pas ça, c'est un manque de force. On appelle ça de l'intimité. Parce que si je suis fidèle, je vais mourir à moi-même. Je vais mourir à ce que je veux faire. Et je vais tenir mes engagements. Et ça, ça vaut pour tous les frères. Avec mon ouvrage que je dois donner, avec le temps que je dois donner, avec le temps que je donne à l'évangélisation, le temps que je donne à ma méditation de la parole, à ma prière pour les frères. Tout ça, on ne parle pas ici de force ou de pas de force, on parle ici de fidélité. Souviens-toi de ça, parce que ça va t'aider. Crois-moi, au moment où tu vas avoir la flemme pour prier pour les autres, ne passe pas des pas de force. Parce que je suis quelqu'un d'infidèle. Et tu vas voir que ta force va venir. Parce que si tu veux être fidèle, tu peux. Tu peux. Ok. Bon, je vais marquer. Je vais rien te dire pour la justifier. Je crois que vous avez compris, donc. C'est le fruit de l'esprit qui va nous transformer à l'image de Christ. C'est-à-dire une personne fidèle, une personne honorable qui tient ses engagements. Compris par celui-là, le tien. L'autre aspect, c'est la douceur. Nous voyons dans notre passage, le fruit de l'esprit, c'est la foi, ou la fidélité, la douceur. Qu'est-ce que signifie la douceur? La douceur, ici, nous ne nous parlons pas simplement d'un caractère doux, tranquille, c'est plus que ça. Ça peut être tout ça, mais c'est plus que ça. Ici, la douceur, elle pourrait être décrite avec trois caractéristiques. C'est une soumission à la volonté de Dieu, Colossiens 3:12. C'est la facilité avec laquelle quelqu'un se laisse enseigner, Jacques 1:21, et la considération pour les autres. Qu'est-ce que c'est une personne douce? Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui va vite s'accommoder à la volonté de Dieu pour lui. Imaginez, je vous mets un exemple. Je demande un crédit pour une maison. J'ai très envie d'avoir la maison, j'en ai besoin. Et je sais que ça fait quelque chose de bien pour moi. Mais souvent on dit que la volonté de Dieu se passe, n'est-ce pas? Ok. Mais imagine que la banque refuse ce crédit. Et là, quelqu'un qui est fou, au lieu que cela travaille son cœur et il se mette mal, il est quelqu'un qui s'accorde très vite à la volonté de Dieu. Seigneur, je veux être humble et doux. Je me soumets à ce que toi tu as décidé pour moi. C'est ça de la douceur. De la douceur, c'est quelqu'un qui se soumet plus rapidement à la divine providence de Dieu. Et cela peut être dans tous les aspects de la vie. Je suis content de mon travail, je me soumets à la volonté. Je suis content du mari qui m'a donné, même s'il a mauvais caractère, je vais travailler avec ça. Donc c'est une personne douce. Pourquoi? Parce qu'elle se soumet volontairement à la volonté de Dieu. La deuxième façon, c'est qu'elle est quelqu'un de facilement enseignable. Quelqu'un de doux, c'est pas quelqu'un de borné.
Et Dieu sait que vous avez besoin de moi, de cette famille.
Quelqu'un de vous, c'est quelqu'un qui, quand on lui enseigne quelque chose, quand on lui montre quelque chose, qu'il se trompe,
et qu'on lui enseigne,
quelqu'un de vous, c'est quelqu'un qui est vite enseignable, et la Bible le loue pas. La parole de Dieu loue cette vertu de la douceur, que l'homme qui est enseignable, qui est prompt à corriger, à être corrigé, c'est quelqu'un qui est béni de Dieu. Parce que c'est quelqu'un de sage et d'intelligent. Donc la douceur est décrite dans les Écritures comme quelqu'un qui est facilement enseignable et qui reconnaît très vite ses erreurs. La douceur aussi, considérée par les Écritures comme quelqu'un qui considère les autres, nous avons vu dans le passage de Philippiens, considérer les biens des autres au-dessus de nous-mêmes. C'est de la douceur. Vous savez que Jésus, quand il parle de lui, une de ces fois où Jésus nous dit de l'imiter, même si nous devons imiter Jésus, même quand il n'a pas dit, mais une des fois où le Seigneur a dit comment lui se voyait lui-même, il dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, vous vous en du repos, prenez mon joug sur vous et recevez les instructions, car je suis doux et humble de cœur. Jésus se décrit lui-même comme une personne douce, c'est-à-dire une personne qui se soumettait très facilement au plan de Dieu pour lui. Vous savez que Jésus a vécu par la force, vous savez ça? Jésus a vécu par la force. Jésus a découvert dans les Écritures, dans la lui-même, a découvert dans les Écritures qu'est-ce qui devait lui arriver et comment ça allait lui arriver. Et nous voyons l'apogée de sa douceur dans le Évangile de Thérèse. Il sait qu'il va venir. Sous la trois souffrances et rejeté de Dieu lui-même, délaissé de Dieu. Et il va dire au Père, si c'est tout ce que vous faites, mais non pas ma volonté. Vous voyez la douceur, parle comme ça, non pas ma volonté, la sienne. C'est une volonté qui se soumet. Et Jésus a montré être l'homme le plus doux de tout l'univers. Donc être doux, c'est quelqu'un qui se soumet facilement et qui est enseignable. Amen.
Amen.
Est-ce que vous le désirez?
Amen.
Nous voyons la dernière vertu, ensuite, je vais essayer de pas finir, ensuite on terminera, c'est la maîtrise de soi. Franchement, j'ai hésité à le mettre ici, je voudrais faire une autre prédication, mais je crois qu'on va faire une autre chose. C'est la vertu, telle que c'est la maîtrise de soi, c'est la vertu d'une personne qui contrôle ses passions et ses appétits. Et Dieu sait que c'est vraiment quelque chose d'important pour la sanctification. La maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui contrôle ses passions et ses appétits. Qu'est-ce que c'est une passion, de fait? Qu'est-ce que c'est une passion? Comment décrire théologiquement et philosophiquement une passion? Une passion, c'est prendre un plaisir légitime, par exemple manger. Manger, le plaisir que donne la nourriture, c'est Dieu qui l'a fait, c'est quelque chose de bon. Mais une passion, quand on est passionné par la nourriture, qu'est-ce que c'est? C'est que ce plaisir devient incontrôlé. Et il se dérègle. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui mangent de manière excessive et qui font du mal. Est-ce que le plaisir de manger est mauvais? Non. Qu'est-ce que c'est qui est mauvais? La passion qu'ils ont pour la nourriture. Et cela peut s'appliquer à tous les plaisirs que nous trouvons dans ce monde. Le diable a tout ça, le péché a tout ça. Le péché et le diable ont pris les plaisirs que Dieu a créés de manière légitime et il est tort, il est dépendant pour nuire à l'homme et à l'image que Dieu a créée dans l'homme. Donc, être quelqu'un qui a la maîtrise de soi, c'est être une personne qui ne se laisse pas dominer par ses passions. C'est être une personne qui fait la part des choses. Par exemple, je vais manger bien, je vais pas me plaisir, mais quand mon corps va me demander plus que ce que je fais, que ce que je besoin, non, je vais dominer cette pulsion. Et je ne vais pas me laisser faire. Ça, c'est être quelqu'un qui maîtrise son corps, qui maîtrise ses passions. Et les frères, ceci est quelque chose d'indispensable dans la vie chrétienne. Indispensable. Tu sais que tu dois te maîtriser de comment tu regardes la télévision. Tu dois te maîtriser de comment tu travailles. tu dois te maîtriser de tout. Tout m'exige, mais tout n'exige pas. Tout me permet, mais je ne me laisserai interdire par quoi que ce soit. S'il y a des choses que tu es en train de m'interdire et qui prend beaucoup trop de place, et que tu sais comment tu peux le savoir, parce que tu n'arrives pas à le contrôler. Tu manques ça, tu veux que ça, et tu fais que ça. Et bien, à ce moment-là, c'est de ça que tu dois te priver. Et Dieu va comprendre, non, je ne te le donne plus. Jeûner, le fait, c'est une forme de faire grandir en nous la maîtrise de soi. Quand je jeûne, je suis en train de dire à mon corps, ce dont j'ai le plus besoin, ce n'est pas simplement de la nourriture, mais de Dieu. C'est ça le mot. Qu'est-ce que c'est ? Saint Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, abstenez-vous ? Ne donnez pas libre accès. N'obéissez pas aux convoitises charnelles. Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Paul nous dit ici, quelle est la bonne manière de vivre un chrétien? Offrez-vous un sacrifice. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas mettre dans le monde. Ok, j'avais un autre passage, mais je ne vais pas le lire. Maintenant, peut-être qu'à la lumière de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous êtes désespéré. Moi, ça a été mon cas. Dans plusieurs aspects, je me suis vu loin de tout ça. Et j'ai crié à Dieu, Seigneur, comment je vais faire? Je veux tout ça, vraiment. Que Dieu est témoin que je vous dis moment, je veux plus de tout ça dans ma vie. Je veux être un homme plus fidèle. Je veux être un homme plus doux. Je veux être un homme mieux aidé et qui n'obéit pas aux conventions de recherche. Je veux être ça, je veux de tout mon cœur. Mais quand je me regarde, je me dis, j'avais tellement peur. Je suis tellement désespéré. Je vois toutes ces batailles dans ma vie comme des géants insurmontables. Et c'est pour cette raison que je veux vous rappeler que nous sommes en train de voir le fruit de l'esprit. L'esprit est tout puissant.
Amen.
Et il est capable de donner.
Amen.
C'est une grâce de Dieu. Écoutez ce que Romains 7, 20 dit. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous le pied. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dieu écrasera bientôt Satan sous le pied. Et la ferme et la forme, ou une des formes, comment il va l'écraser, c'est parce qu'il va se rendre semblable dans le Christ, il va le faire. Il va faire grandir. Si tu es un Christ, tu dois l'esprit de Dieu, il va faire grandir le fruit de l'esprit dans ta vie. Tu vas devenir une personne à la rencontre de Jésus. C'est obligé. Maintenant, c'est ce que tu dois faire. Comme nous avons dit. Ne te repose pas sur cette vérité que si tu es un Christ, Dieu va le faire. Non. Retrouve-toi les manches. Et si tu désires toutes ces vertus que nous avons vues, recherche-les. Comprends pourquoi. Et le Seigneur saura que tu vas grandir dans ta vie. Amen.